dans la colonie pénitentiaire.
De Franz Kafka.
C'est un appareil spécial.
Dit l'officier au visiteur en mission, tout en embrassant du regard, avec des yeux quelque peu admiratifs, l'ensemble de l'appareil, qu'il connaissait pourtant bien. Le visiteur semblait n'avoir accédé que par politesse à l'invitation du commandant qui l'avait incité à venir assister à l'exécution d'un soldat condamné pour désobéissance et offense à supérieur. L'intérêt pour cette exécution n'était sans doute pas non plus bien grand dans la colonie pénitentiaire. Du moins, n'y avait-il, dans ce vallon encaissé, sablonneux et isolé par une ceinture de pente dénudée, outre l'officier et le visiteur, que le condamné. Un individu à large faciès d'abruti, les cheveux et le visage en piètre état, ainsi qu'un soldat tenant la lourde chaîne dans laquelle venaient se prendre les petites chaînes qui entravaient le condamné aux chevilles et aux poignets, ainsi qu'au cou, et qui étaient également reliées entre elles par des chaînes de liaison. Le condamné avait d'ailleurs un tel air de chien dévoué et docile qu'on aurait pu, semblait-il, le laisser gambader librement dans les pentes et se contenter de le siffler juste avant le début de l'exécution pour qu'il revienne. Le visiteur éprouvait peu d'intérêt pour l'appareil et faisait les 100 pas derrière le condamné avec un détachement presque visible, tandis que l'officier vaquait aux derniers préparatifs, tantôt rampant sous l'appareil, profondément ancré dans la terre, tantôt montant sur une échelle pour examiner les éléments du dessus. C'était là des tâches qu'à dire vrai on aurait pu confier à un machiniste, mais l'officier s'en acquittait avec beaucoup de zèle, soit qu'il fût un partisan particulier de cet appareil, soit que pour d'autres raisons, on ne put confier ce travail à personne d'autre.
« Tout est prêt maintenant !»
s'exclama-t-il enfin, en descendant de l'échelle. Il était immensément las, respirait, la bouche grande ouverte, et s'était coincé deux délicats mouchoirs de dame derrière le col de son uniforme.
« Ces uniformes sont quand même trop lourds pour les tropiques !»
dit le visiteur, au lieu de se renseigner comme s'y était attendu l'officier sur l'appareil.
« Assurément !»
dit l'officier en lavant ses mains maculées d'huile et de graisse dans une cuvette d'eau déjà préparée.
« Mais il symbolise notre pays, nous ne voulons pas perdre notre pays. Mais voyez un peu maintenant cet appareil. »
ajouta-t-il aussitôt, s'essuyant les mains avec un torchon tout en désignant l'appareil.
« Jusqu'à présent, il fallait encore travailler à la main. Mais dorénavant, l'appareil va fonctionner tout seul. »
Le visiteur opina du chef et suivit l'officier. Celui-ci voulait parer à toute éventualité et dit alors
« Il arrive naturellement que ça ne marche pas bien. J'espère bien sûr que ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais il faut quand même compter avec cette possibilité. L'appareil, voyez-vous, doit marcher pendant 12 heures sans interruption. Mais même quand il y a des perturbations, elles sont tout à fait mineures et on y remédie immédiatement. « Et vous ne voulez pas vous asseoir ?»
demanda-t-il enfin, dégageant un siège d'un tas de chaises en rotin et le proposant aux visiteurs. Celui-ci ne put refuser. Il était maintenant assis au bord d'une fosse dans laquelle il jeta un rapide regard. Elle n'était pas très profonde. Sur un côté de la fosse, on avait entassé toute la terre retirée pour faire une levée. De l'autre côté était installé l'appareil.
Je ne sais pas si le commandant vous a déjà donné des explications sur l'appareil.
Le visiteur fit un vague mouvement de la main. L'officier ne demandait pas mieux. Il pouvait maintenant l'expliquer lui-même.
« Cet appareil, »
dit-il en attrapant une manivelle sur laquelle il s'appuya,
« est une invention de notre précédent commandant. J'ai d'emblée collaboré aux tout premiers essais et j'ai pris part également à tous les travaux jusqu'à leur achèvement. Il est vrai cependant que le mérite de l'invention lui revient à lui seul. Avez-vous entendu parler de notre précédent commandant ? Non ? Eh bien, je ne pense pas exagérer en affirmant que l'organisation de la totalité de la colonie pénitentiaire est son œuvre. Mais je bavarde et son appareil est ici, devant nous.
S'interrompit l'officier.
Il se compose, comme vous voyez, de trois parties. Au fil du temps, chacune de ces parties a reçu une désignation que l'on peut dire populaire. Le lit, pour celle d'en bas, le traceur, pour celle du dessus, et la herse, pour celle du milieu, ici, Celle qui est suspendue.
La herse.
Demanda le visiteur. Il n'avait pas écouté très attentivement. Dans cette vallée sans ombre, le soleil agissait avec bien trop d'intensité. On avait du mal à rassembler ses pensées. Il n'en avait que plus d'admiration pour cet officier en uniforme avec sa veste d'apparat collée au corps, alourdie par des épaulettes et bardée de fourragères, qui lui expliquait son affaire avec tant d'empressement et qui, de surcroît, tout en parlant, s'escrimait encore ça et là sur une vis avec un tournevis. Le soldat semblait dans la même disposition d'esprit que le visiteur. Il avait enroulé la chaîne du condamné autour de ses deux poignets, s'appuyait d'une main sur son fusil, la tête tombant en arrière, nuque cassée, et ne se souciait de rien. Le visiteur n'en fut pas étonné, car l'officier parlait français, et d'évidence, ni le soldat ni le condamné ne comprenaient le français. Il n'en était que plus frappant du reste que le condamné s'efforça néanmoins de suivre les explications de l'officier. Il dirigeait sans cesse ses regards, avec une sorte d'insistance somnolente, vers le point que l'officier était en train de montrer, et lorsque celui-ci fut interrompu par une question du visiteur, il tourna lui aussi les yeux, tout comme l'officier, vers le visiteur.
« Oui, la herse, le nom convient. Les aiguilles sont alignées comme sur une herse. » Et de même, l'ensemble se manœuvre comme une herse, bien que sur un seul et même espace et de façon beaucoup plus sophistiquée. Vous allez d'ailleurs le comprendre tout de suite. Le condamné est allongé ici, sur le lit. Je vais en effet d'abord décrire l'appareil et ne lancerai la procédure proprement dite qu'après. Vous pourrez ainsi mieux la suivre ensuite. J'ajoute qu'il y a dans le traceur un pignon qui est trop usé. Il couine beaucoup quand ça marche. On ne peut alors presque plus parler. Malheureusement, il est difficile de se procurer les pièces de rechange ici. Donc, comme je le disais, voici le lit. Il est entièrement recouvert d'une couche de ouate. Je vous dirai pourquoi après. Le condamné est allongé à plat ventre sur cette ouate, nu, naturellement. Il y a ici des courroies pour les mains, ici pour les pieds, ici pour le cou, qui servent à l'attacher. Ici, à la tête du lit, là où, comme je l'ai dit, l'homme est d'abord étendu, le visage tourné vers le bas, il y a ce petit bourrelet de feutre qu'on peut régler facilement de façon qu'il rentre tout droit dans la bouche de l'homme. Il sert à l'empêcher de crier et de se mordre la langue. Bon, il faut naturellement que l'homme embouche ce feutre, sinon la courroie du cou lui brise la nuque.
C'est de la ouate ?
Demanda le visiteur en se penchant.
Oui, parfaitement, tâtez donc vous-même.
Il prit la main du visiteur et la fit passer sur le lit.
C'est une ouate spécialement préparée, ce qui explique qu'on ait tant de mal à reconnaître le matériau. Je dirai encore un mot plus tard de ce à quoi elle sert.
Le visiteur était déjà un peu conquis par la machine. Il regarda les parties hautes de l'appareil en se protégeant les yeux du soleil avec la main. La structure était imposante. Le lit et le traceur occupaient le même volume et ressemblaient à deux gros coffres obscurs. Le traceur était installé à 2 mètres à peu près au-dessus du lit. Les deux éléments étaient reliés à chaque coin par 4 tiges de laiton qui étincelaient presque dans le soleil. Entre les coffres, la herse était suspendue à un ruban d'acier. L'officier avait à peine noté l'indifférence initiale du visiteur, mais il était sans doute sensible à l'intérêt qui commençait à poindre chez lui. Il brisa donc là avec ses explications, afin de laisser un peu de temps au visiteur pour qu'il puisse regarder sans être dérangé. Le condamné imita le visiteur. Comme il ne pouvait pas utiliser sa main pour se protéger du soleil, il regardait en l'air, en clignant des yeux.
« Donc l'homme est allongé ?»
dit le visiteur en se calant sur son siège et en croisant les jambes.
« Oui. »
dit l'officier en repoussant un peu sa casquette et en se passant la main sur son visage en feu.
« Écoutez bien maintenant. Le lit et le traceur ont chacun leur propre batterie électrique. Le lit l'utilise pour lui-même, le traceur pour la herse. Dès que l'homme est bien attaché, on lance le lit. Il se met à vibrer en infimes saccades très rapprochées, à la fois de droite à gauche et de haut en bas. Vous avez sans doute vu des appareils du même genre dans des établissements de soins, sauf que, dans le cas de notre lit, tous les mouvements sont calculés avec précision. Il faut en effet qu'ils soient rigoureusement accordés au mouvement de la herse. Mais c'est à cette herse qu'est déléguée l'exécution proprement dite de la sentence.
Et quelle est donc cette sentence ?
Demanda le visiteur.
Ça non plus, vous ne le savez pas.
S'étonna l'officier en se mordant les lèvres. Il avait quelques malédictions sur le bout de la langue, mais il se ressaisit et dit seulement
« Je n'en ai pas été informé, la faute ne m'en incombe pas. Je suis par ailleurs, il est vrai, parfaitement habilité à expliquer nos différents types de sentences, car je porte ici... »
Il frappa de la main sur la pochette de sa veste.
« Les croquis ad hoc de la main de l'ancien commandant. »
« Des croquis de la main du commandant en personne ?»
demanda le visiteur.
« Réunissait-il en lui toutes les qualités ? Était-il à la fois soldat, juge, constructeur, chimiste et dessinateur ?»«
Parfaitement. »
dit l'officier en hochant la tête, le regard fixe et songeur. Puis il examina ses mains. Elles ne lui semblèrent pas suffisamment propres pour toucher les croquis. Il retourna donc au baquet et se les lava une nouvelle fois. Après quoi, il tira un petit portefeuille de cuir et dit
« À l'entendre, notre sentence ne paraît pas très rigoureuse. Le condamné se verra inscrire sur le corps, avec la herse, le commandement qu'il a enfreint. À ce condamné-ci, par exemple,
l'officier désigna l'homme.
« On écrira sur le corps, tu honoreras ton supérieur. »
Le visiteur aurait voulu poser différentes questions, mais à la vue de l'homme, il se contenta de demander
« Connaît-il sa sentence ?»«
Non !»
dit l'officier, pressé de poursuivre ses explications. Mais le visiteur l'interrompit.
« Il ne connaît pas sa sentence ?»«
Non !»
répéta l'officier avant de rester muet un instant, comme s'il attendait du visiteur qu'il motive plus précisément sa question. Puis il dit
« Ça ne servira à rien de la lui annoncer. Aussi bien il va la découvrir sur son propre corps. »
Mais qu'il est condamné, ça, il le sait.
Ça non plus,
dit l'officier en souriant au visiteur, comme s'il attendait encore de lui quelques relances étranges.
Non,
dit le visiteur en se passant la main sur le front.
Et donc cet homme ne sait toujours pas comment sa défense a été reçue?
Il n'a pas eu l'occasion de se défendre,
dit l'officier en détournant le regard, comme s'il se parlait à lui-même et ne voulait pas faire honte au visiteur en racontant toutes ces choses qui, pour lui, allaient de soi.
« Il faut quand même qu'il ait eu l'occasion de se défendre. »
dit le visiteur en se levant de son siège. L'officier prit conscience qu'il risquait de se trouver longtemps interrompu dans son explication du fonctionnement de l'appareil. Il s'approcha donc du visiteur, se pendit à son bras et lui montra de la main le condamné, lequel, maintenant que l'attention semblait si clairement dirigée vers lui, se dressa bien droit. Le soldat, du reste, tira sur la chaîne. Puis il déclara
« L'affaire se présente de la manière suivante. Je suis affecté aux fonctions de juge dans cette colonie pénitentiaire. Malgré mon jeune âge, cela parce que je secondais l'ancien commandant dans toutes les affaires pénales et parce que c'est moi qui connais le mieux l'appareil. Le principe en fonction duquel je tranche est « La faute ne fait jamais de doute ». Vous vouliez une explication pour cette affaire. Celle-ci est aussi simple que toutes les autres. Un capitaine a déposé une plainte ce matin, selon laquelle cet homme, qui lui est affecté en qualité de domestique et qui dort devant sa porte, ne s'est pas réveillé pour officier. Il a en effet obligation de se lever chaque fois que sonne l'heure et de faire le salut devant la porte du capitaine. Une mission qui n'a assurément rien de difficile et qui est cependant nécessaire car il est censé demeurer frais et dispo tant pour la surveillance que pour le service. La nuit dernière, le capitaine a voulu vérifier que son domestique remplissait bien ses obligations. À 2 heures tapantes, il a ouvert la porte et l'a trouvé tout recroquevillé en train de dormir. Il est allé chercher la cravache et l'en a frappé au visage. Or, l'homme, au lieu de se lever et de demander pardon, a attrapé son maître par les jambes, l'a secoué en criant « Jette la cravache ou je te bouffe ». Les voilà, les faits en question. Le capitaine est venu me trouver, il y a 1 heure, j'ai mis sa déclaration par écrit et, juste à la suite, la sentence. Après quoi, j'ai fait mettre l'homme au fer. Tout ça était très simple. Si j'avais commencé par convoquer l'homme et l'interroger, il n'en serait sorti que confusion. Il aurait menti, il aurait, si j'étais arrivé à réfuter ses mensonges, remplacé ceci par de nouveaux mensonges et ainsi de suite. Au lieu que maintenant, je le tiens et ne le lâcherai plus. Tout est clair ? Mais le temps passe, l'exécution devrait déjà avoir commencé et je n'ai pas encore fini d'expliquer le fonctionnement de l'appareil.
Il força le visiteur à se rasseoir et commença.
Comme vous le voyez, la herse correspond par sa forme à celle de l'être humain. Vous avez ici la herse pour le torse et ici, les herses pour les jambes. Pour la tête, il n'est prévu que ce petit poinçon. Vous suivez ?
Il se pencha aimablement vers le visiteur, prêt à donner les explications les plus amples qui fussent. Le visiteur contemplait la herse, le front plissé. Les renseignements fournis sur la procédure judiciaire ne l'avaient pas satisfait. Il fallait bien qu'il se dise pourtant qu'on était ici, dans une colonie pénitentiaire, que des dispositions spéciales étaient ici nécessaires et qu'on était obligé de procéder de bout en bout de manière militaire.
Demain, quand l'appareil aura de nouveau été nettoyé, oui, son seul défaut, c'est qu'il se salisse tellement. Je pourrais me rattraper en vous donnant des explications plus précises. Par conséquent, voici l'essentiel. Quand l'homme est allongé sur le lit et que celui-ci se met à vibrer, on fait descendre la herse sur le corps. Elle se place d'elle-même de manière à ne le toucher que du bout des pointes. Quand le placement est terminé, ce câble d'acier se tend immédiatement et devient aussi rigide qu'une tige. Et c'est alors que le spectacle commence. De l'extérieur, une personne non initiée ne remarque aucune différence dans les peines. La herse semble travailler de manière uniforme. Elle enfonce en vibrant ses pointes dans le corps, lequel, par surcroît, vibre aussi avec le lit. Pour permettre maintenant à chacun de contrôler l'exécution de la sentence, la herse a été réalisée en verre. Ça a causé quelques difficultés techniques pour y fixer les aiguilles, mais on y est arrivé après de nombreux essais. Nous n'avons pas ménagé notre peine. Et tout le monde maintenant peut voir à travers le verre comment se déroule l'inscription sur le corps. Vous ne voulez pas vous approcher et jeter un coup d'œil aux aiguilles ?
Le visiteur se leva lentement, s'avança et se pencha sur la herse.
Vous voyez deux sortes d'aiguilles dans des dispositions multiples. Chaque aiguille longue est associée à une aiguille courte à côté d'elle. La longue en effet écrit, et la courte projette de l'eau pour laver le sang et faire en sorte que l'inscription demeure toujours lisible. L'eau mêlée de sang est canalisée ensuite dans de petites rigoles et s'écoule finalement dans la rigole principale dont le tuyau de vidange débouche dans la fosse.
L'officier désigna du doigt l'itinéraire exact que le mélange d'eau et de sang devait emprunter. Quand, pour rendre les choses aussi concrètes que possible, il la recueillit littéralement dans ses deux mains à la sortie du tuyau de vidange, le visiteur leva la tête et voulut revenir à reculons jusqu'à son siège en tâtonnant derrière lui. C'est alors qu'il vit avec effroi que le condamné aussi avait, tout comme lui, répondu à l'invitation de l'officier et observait de près l'installation de la herse. Il avait un peu traîné par la chaîne le soldat endormi et s'était à son tour penché sur le verre. Le visiteur voulut le repousser car ce qu'il faisait était sans doute punissable. Mais l'officier retint le visiteur de la main, ramassa de l'autre une motte de terre sur le talus et la jeta dans la direction du soldat.
« Remets-le debout !»
cria l'officier, constatant que le visiteur était trop distrait par le condamné.
« Je sais déjà tout maintenant !»
dit le visiteur quand l'officier revint le trouver.
« Exception faite du plus important !»
fit celui-ci en prenant le visiteur par le bras et en lui montrant le dessus.
« Là-haut, dans le traceur !» Il y a le rouage qui détermine le mouvement de la herse, et ce rouage est réglé en fonction du croquis auquel correspond l'intitulé de la sentence. J'utilise encore les dessins de l'ancien commandant. Les voici.
Il tira quelques feuilles du portefeuille de cuir.
Je ne peux malheureusement pas vous les mettre dans la main, ils sont ce que je possède de plus cher. Asseyez-vous, je vous les montre de là où je suis et vous pourrez tout voir sans difficulté.
Il montra la première feuille.
« C'est fait avec beaucoup d'art, mais je n'arrive pas à déchiffrer.
»« Oui, ce n'est pas une calligraphie pour écolier. »
dit l'officier en riant et en rangeant le portefeuille dans sa poche.
« Il faut du temps pour la lire. Vous finirez vous aussi certainement par la comprendre. Il va de soi que ça ne saurait être une écriture simple. Elle ne doit bien sûr pas tuer tout de suite, mais seulement en moyenne au bout de 12 heures. Le point de renvers est calculé pour la 6e heure. » Il faut donc que le texte, proprement dit, soit environné d'un très grand nombre d'enjolivures. Le texte effectif n'entoure le corps que d'une étroite ceinture. Le reste du corps est destiné à des ornements. Êtes-vous maintenant en mesure d'apprécier le travail de la herse et de tout l'appareil ?
Voyez donc.
Il sauta sur l'échelle, tourna une roue et cria de là-haut.
Attention, écartez-vous.
et tout se mit en marche.
Vous comprenez comment ça fonctionne ? La herse commence à écrire. Quand elle en a fini avec le premier dépôt du texte sur le dos de l'homme, la couche de Watt se met à rouler et pousse lentement le corps sur le côté, afin de présenter à la herse un nouvel espace. Entre-temps, les endroits écorchés par le graphe viennent reposer sur la ouate, laquelle en arrête aussitôt le saignement grâce à son traitement spécial et les prépare pour une nouvelle incrustation plus profonde de l'inscription. Les dents que vous voyez là, au bord de la herse, arrachent ensuite la ouate des blessures à mesure que le corps tourne, l'évacuent dans la fosse et la herse a de nouveau du travail. Elle écrit ainsi de plus en plus profondément pendant 12 heures. Pendant les 6 premières heures, le condamné vit presque comme avant. Il ne souffre que de douleur. Au bout de 2 heures, on retire le feutre de sa bouche, car l'homme n'a plus la force de crier. Ici, dans cette jatte chauffée à l'électricité, à la tête du lit, on met une bouillie de riz, où l'homme peut prendre, s'il en a envie, ce qu'il arrive à laper avec sa langue. Personne ne laisse jamais passer cette occasion. Je n'en ai jamais vu un seul le faire, et j'ai une grande expérience. C'est seulement à partir de la 6e heure qu'il perd le plaisir de manger. À partir de là, ça se répand. Un spectacle fascinant qui pourrait inciter à aller se coucher avec lui sous la herse. Il ne se produit de fait plus rien d'autre. L'homme commence simplement à déchiffrer le texte. Il pointe les lèvres comme s'il écoutait. Vous avez vu qu'il n'était pas facile de déchiffrer le texte avec les yeux. Mais notre homme, lui, le déchiffre avec ses blessures. C'est du reste un gros travail. Il lui faut 6 heures pour en venir à bout. Mais après cela, la herse l'embroche complètement et l'expédie dans la fosse, où il tombe bruyamment, à plat dans l'eau, et la ouate sanguinolente. Et alors, l'exécution de la sentence est terminée, et nous, le soldat et moi, nous l'enterrons.
Le visiteur avait penché l'oreille vers l'officier et observait le travail de la machine, les mains dans les poches de sa veste. Le condamné aussi l'observait, mais sans comprendre. Il s'était un peu penché et suivait des yeux les vibrations des aiguilles quand le soldat, sur un signe de l'officier, lui fendit d'un coup de couteau la chemise et le pantalon par derrière, ce qui le fit tomber. Le condamné voulut rattraper ses affaires pour cacher sa nudité, mais le soldat le souleva et fit dégringoler en le secouant les derniers lambeaux qu'il avait sur lui. L'officier arrêta la machine, et dans le silence qui se fit alors, le condamné fut placé sous la herse. On détacha ses chaînes, et à la place, on fixa les courroies. Dans un premier temps, cela parut presque être un soulagement pour le condamné. Puis la herse s'abaissa encore un peu plus, car il s'agissait d'un homme maigre. Quand les pointes le touchèrent, un frisson parcourut sa peau. Pendant que le soldat s'affairait sur sa main droite, il tendit la main gauche sans savoir vers quoi, mais c'était dans cette direction que se trouvait le visiteur. L'officier ne cessait pas de jeter à ce dernier des regards de côté, comme s'il cherchait à lire sur son visage l'impression que lui faisait cette exécution, maintenant qu'il la lui avait expliquée, au moins superficiellement. Le visiteur réfléchissait. Il n'est jamais évident d'intervenir de manière décisive dans les affaires d'autrui. Il n'était citoyen ni de la colonie pénitentiaire, ni de l'État auquel elle appartenait. S'il voulait condamner cette exécution, voir la faire échouer, on pouvait lui dire « Tu n'es pas d'ici, tais-toi ». Il n'aurait rien pu répliquer à cela, mais seulement ajouter qu'en l'espèce, il ne se comprenait pas lui-même, car il ne voyageait que dans l'intention de voir et nullement, par exemple, pour changer les constitutions judiciaires des autres. Le caractère injuste de la procédure et l'inhumanité de l'exécution ne faisaient aucun doute. Personne ne pouvait alléguer un quelconque intérêt personnel de la part du visiteur, car le condamné lui était inconnu, n'était pas un compatriote et n'était pas du tout un être incitant à la pitié. Le visiteur, quant à lui, avait des recommandations émanant de hautes autorités. Il avait été accueilli ici avec une grande courtoisie et le fait qu'on l'eût invité à cette exécution semblait même suggérer qu'on requérait son jugement sur cette façon de rendre la justice. Et cela était d'autant plus vraisemblable que le commandant, comme il venait de l'entendre dire sans fard, n'était pas un partisan de cette procédure et que son attitude à l'égard de l'officier avait presque quelque chose d'hostile. Le visiteur entendit alors un cri de rage poussé par l'officier. Il venait juste, et non sans peine, d'enfoncer le tampon de feutre dans la bouche du condamné quand celui-ci, en proie à une nausée irrésistible, ferma les yeux et vomit. L'officier se hâta de le dégager du tampon en le soulevant et voulut lui tourner la tête vers la fosse, mais il était trop tard. Le vomi dégoulinait déjà le long de la machine.
« Tout ça est la faute du commandant !»
cria l'officier, hors de lui, en secouant les tiges de laiton à l'avant de l'appareil.
« On salit la machine comme une écurie !»
Les mains tremblantes, il montra au visiteur ce qui s'était produit.
« J'ai passé des heures et des heures à tenter de faire comprendre au commandant qu'un jour avant l'exécution, il ne fallait plus administrer de nourriture. Mais la nouvelle direction, dans sa grande douceur, est d'un autre avis. Ces dames du commandant gavent le gosier de notre homme avec des sucreries avant qu'on l'emmène. Il s'est nourri pendant toute son existence de poissons puants, et maintenant il faut qu'il mange des sucreries. Après tout, pourquoi pas ? Je n'ai rien contre. Mais pourquoi ne me fournit-on pas un nouveau tampon, comme je le réclame depuis 3 mois ? Comment peut-on, sans être écœuré, se mettre dans la bouche ce tampon que plus d'une centaine d'hommes ont sucé et mordu en mourant ?
Le condamné avait posé la tête sur le lit et semblait paisible. Le soldat était occupé à nettoyer la machine avec la chemise du condamné. L'officier vint trouver le visiteur qui recula d'un pas, mu par quelques pressentiments. Mais l'officier le saisit par la main et le tira un peu à l'écart.
« Je voudrais vous dire quelque chose en confidence. Vous m'y autorisez ?»
dit-il.
« Bien sûr. »
dit le visiteur. Et il écouta, les yeux baissés.
« Cette procédure et cette exécution que vous avez maintenant l'occasion d'admirer, non, à l'heure actuelle, plus aucun partisan déclaré dans la colonie. Je suis leur seul défenseur. Et en même temps, l'unique défenseur de l'héritage de l'ancien commandant. Je ne puis plus songer à un perfectionnement de cette procédure. J'utilise toutes mes forces à conserver ce qui existe. Du vivant de l'ancien commandant, on ne comptait plus ses partisans dans la colonie. Autrefois, l'exécution, c'était autre chose. Un jour avant qu'on y procède, toute la vallée grouillait déjà de monde. Ils venaient tous, rien que pour voir. Dès le début de la matinée, le commandant apparaissait en compagnie de ses dames. Il y avait des fanfares qui réveillaient tout le camp. J'annonçais officiellement que tout était prêt. Les invités, aucun haut fonctionnaire ne devait manquer, se mettaient en bon ordre autour de la machine. Ce tas de sièges en rotin est un vestige de cette époque. La machine rutilait, nettoyée de frais. Je prenais des pièces détachées neuves pour chaque exécution, ou presque. Sous les yeux de centaines de gens, les spectateurs se dressaient tous alors sur la pointe des pieds, jusqu'aux hauteurs, là-bas. Le condamné était couché sous la herse par le commandant en personne. Ce qu'on permet de faire aujourd'hui à un soldat ordinaire, à l'époque, c'était mon travail à moi, président du tribunal. Et il me faisait honneur. Puis, l'exécution commençait. Aucune fausse note ne troublait le travail de la machine. Certains ne regardaient plus, mais restaient couchés dans le sable, les yeux fermés. Tout le monde savait. Voici l'heure de la justice. On entendait dans le silence que les soupirs du condamné, amortis par le feutre. Aujourd'hui, la machine ne parvient plus à extraire du condamné un soupir plus fort que ce que le feutre peut encore étouffer. Mais à l'époque, les aiguilles lâchaient en écrivant un liquide corrosif qu'on n'a plus le droit d'employer aujourd'hui. Ah, comme nous percevions tous alors l'expression de transfiguration qui émanait du visage martyrisé. Comme nous exposions nos joues au rayonnement de cette justice enfin atteinte et déjà en train de disparaître. C'était le bon temps, camarade.
L'officier avait manifestement perdu de vue qui se trouvait en face de lui. Il avait enlacé le visiteur et posé la tête sur son épaule. Le visiteur était très gêné et regardait ailleurs, l'air impatient.
Je n'étais pas loin de vous hier quand le commandant vous a invité. J'ai entendu l'invitation. Je connais le commandant, j'ai tout de suite compris ce qu'il avait en vue en vous invitant. Il a beau disposer d'assez de pouvoir pour intervenir contre moi, il n'ose pas encore le faire, mais il veut sans doute m'exposer à votre jugement, au jugement d'un étranger estimé. Son calcul est bien fignolé. Ça fait 2 jours que vous êtes dans l'île, vous ne connaissiez ni l'ancien commandant, ni ses idées. Vous êtes prisonnier de conceptions européennes. Peut-être êtes-vous par principe un adversaire de la peine de mort en général et en particulier d'un mode d'exécution à la machine tel que celui-ci. Vous constatez en outre combien cette exécution se déroule dans une désaffection générale, dans la tristesse et sur une machine déjà un peu détériorée. N'est-il pas dès lors très probable que tout cela mis bout à bout, c'est ce que pense le commandant, vous considériez que ma façon de procéder n'est pas juste ? Et si vous ne la considérez pas comme juste, je parle toujours dans l'esprit du commandant, vous n'en ferez pas mystère, car vous faites certainement confiance à vos convictions, si souvent validées par l'expérience. Mais le commandant n'en a aucun besoin. Il va vous interroger de façon fort rusée. Ça, j'en suis certain. Et ces dames seront assises autour de lui et tendront l'oreille, aux aguets. Vous direz par exemple, chez nous, la procédure judiciaire est différente. Ou, chez nous, l'accusé est interrogé avant le jugement. Ou, chez nous, le condamné est informé de la sentence. Ou, chez nous, il y a aussi d'autres peines que les peines de mort. Ou, chez nous, il n'y a eu de torture qu'au Moyen-Âge. Tout cela, ce sont des remarques qui sont tout aussi justes qu'elles vous paraissent aller de soi, des remarques innocentes qui ne portent en rien atteinte à ma procédure. Mais comment le commandant va-t-il les prendre ? Je le vois, ce bon commandant, pousser aussitôt sa chaise sur le côté et se précipiter au balcon. Je vois ces dames le suivre en cortège et j'entends sa voix. Ces dames disent que c'est une voix de stentor. Bref, il dit « Un grand chercheur occidental désigné pour faire l'expertise de la procédure judiciaire dans tous les pays vient de déclarer que notre procédure selon l'usage ancien était inhumaine. Après ce jugement émanant de pareilles personnalités, il ne m'est naturellement plus possible de tolérer cette procédure. J'ordonne donc à dater de ce jour, etc. » Vous voulez intervenir ? Vous n'avez pas prononcé les mots qu'il proclame. Vous n'avez pas qualifié ma procédure d'inhumaine. Au contraire, conformément à votre profonde intelligence des choses, vous la considérez comme la plus humaine et la plus empreinte d'humanité qui soit. Vous admirez aussi le mécanisme. Mais il est trop tard. Vous n'apparaissez pas du tout au balcon, qui est déjà plein de dames. Vous voulez vous faire remarquer, vous voulez crier, mais la main d'une dame vous tient la bouche fermée. Et nous voici perdus. Moi-même et l'œuvre de l'ancien commandant.
Le visiteur ne put s'empêcher de réprimer un sourire. Il esquiva.
Vous surestimez mon influence. Le commandant a lu ma lettre de recommandation. Il sait que je ne suis pas un expert en matière de procédure judiciaire. Si j'exprimais une opinion, ce serait celle d'une personne privée, en rien plus importante que l'opinion de n'importe qui d'autre, et en tout cas bien moins importante que celle du commandant qui, comme je crois le savoir, dispose de droits très étendus. Si son opinion sur cette procédure est une opinion aussi déterminée que vous le croyez, alors, je le crains, la dernière heure de cette procédure a sonné, sans qu'il soit besoin de ma modeste assistance.
L'officier avait-il déjà compris ? Non, il ne comprenait toujours pas.
Vous ne connaissez pas le commandant. Face à lui et à nous tous, pardonnez-moi l'expression, vous êtes quelqu'un de relativement inoffensif. Votre influence, croyez-moi, est inestimable. J'ai été ravi, voyez-vous, d'apprendre que vous seriez le seul à assister à l'exécution. Cette disposition édictée par le commandant était censée m'atteindre, mais je la retourne maintenant à mon avantage. Sans être détourné par les chuchotements fallacieux et les regards méprisants qui n'auraient pu être évités dans le cas d'une participation plus importante à l'exécution, vous avez écouté mes explications. Vous avez vu la machine et vous êtes maintenant sur le point d'observer de près l'exécution. Votre jugement est sans aucun doute déjà arrêté. S'il devait subsister quelques menues incertitudes encore, le spectacle de l'exécution les éliminera. Voici donc maintenant la prière que je vous adresse. Aidez-moi face au commandant.
Le visiteur ne le laissa pas poursuivre.
Comment le pourrais-je ?
S'exclama-t-il.
C'est tout à fait impossible. Je ne peux pas plus vous être utile que vous nuire.
Vous le pouvez.
Le visiteur constata avec quelque appréhension que l'officier serrait les poings.
Vous le pouvez.
Répéta l'officier de façon plus pressante encore.
J'ai un plan qui ne peut pas ne pas réussir. Vous croyez que votre influence ne suffit pas ? Je sais qu'elle suffit. Mais en admettant que vous ayez raison, n'est-il pas nécessaire pour conserver cette procédure de tout tenter, y compris ceux qui pourraient être insuffisants ? Écoutez donc mon plan. Demain se tiendra au quartier général, sous la présidence du commandant, une importante réunion des hautes autorités administratives de la colonie. Or, vous serez certainement invité, quoi qu'il arrive, à participer à cette séance.
Si vous vous comportez aujourd'hui conformément à mon plan, l'invitation se convertira en demande pressante. Mais si pour quelque raison inimaginable, vous n'êtes malgré tout pas invité, il faudrait bien sûr que vous réclamiez cette invitation. Et alors il ne fait aucun doute qu'on vous l'accorderait. Vous voilà donc assis, demain, avec les dames, dans la loge du commandant. Après divers sujets de discussion, sans intérêt, ridicules et uniquement destinés aux auditeurs, il s'agit le plus souvent de travaux portuaires, encore et toujours de travaux portuaires, la question de la procédure judiciaire arrive aussi sur le tapis. Je me lèverai et je ferai état de l'exécution d'aujourd'hui. Très brièvement, une simple notification. Certes, ce genre de notification n'est pas habituel là-bas, mais je le ferai. Le commandant me remercie comme d'habitude avec un sourire aimable, puis il ne peut pas se retenir, il saute sur cette bonne occasion. « On vient juste, » il parlera plus ou moins comme ça, « de nous notifier l'exécution. » Je voudrais simplement ajouter que ce grand chercheur, dont vous savez tous qu'il se trouve parmi nous pour une visite qui honore si immensément notre colonie, a justement assisté à cette exécution. Notre réunion d'aujourd'hui se trouve, elle aussi, auréolée par sa présence d'une importance plus grande encore. Ne demanderions-nous pas dès lors à ce grand chercheur quel jugement il porte sur cette exécution, selon l'ancienne manière et sur la procédure qui la précède ? De toutes parts, naturellement, les applaudissements crépitent. Tout le monde approuve, et c'est moi qui fais le plus de bruit. Le commandant s'incline devant vous et dit « Eh bien, au nom de tous, je vous pose la question. » Et c'est alors que vous vous avancez à la rambarde. Vous y posez les mains bien en vue, sinon les dames vont vous les prendre et jouer avec vos doigts. Et c'est vous, enfin, qui avez la parole. Je ne sais pas comment je supporterai l'attention des heures qui nous séparent encore de cet instant. Dans votre discours, il ne faut vous fixer aucune limite. Faites entendre bruyamment la vérité. Penchez-vous par-dessus la rambarde. Hurlez. Hurlez au commandant votre opinion, votre inébranlable opinion. Ne dites que quelques mots, chuchotez-les, pourvu seulement que les fonctionnaires qui sont au-dessous de vous les entendent. Cela suffit. Vous n'êtes même pas obligé de parler de la faible participation à l'exécution, de la roue qui gémit, de la courroie déchirée, de ce feutre atroce. Non, non, tout ça, je le prends sur moi. Et croyez-moi, si mon discours ne le chasse pas hors de la salle, il le fera tomber à genoux et l'obligera à reconnaître. Ancien commandant, je m'incline devant toi. Tel est mon plan. Voulez-vous m'aider à le mettre en œuvre ? Mais bien sûr que vous le voulez. Et même mieux, vous le devez !
L'officier saisit alors le visiteur par les deux bras et le regarda dans les yeux, le souffle court. La réponse qu'il allait devoir donner ne faisait aucun doute pour le visiteur depuis le début. Il en avait trop vu et trop appris au cours de son existence pour hésiter en cette circonstance. Il était fondamentalement honnête et n'avait pas peur. Pourtant, il hésita alors le temps d'un soupir à la vue du soldat et du condamné. Mais pour finir, il dit ce qu'il fallait qu'il dise.
Non.
L'officier cligna plusieurs fois des yeux, sans cesser de le regarder.
Vous désirez une explication ?
L'officier silencieux hocha la tête.
Je suis un adversaire de cette procédure.
Dit alors le visiteur.
Avant même que vous ne m'engagiez dans votre confiance, confiance dont naturellement je n'abuserai en aucun cas, je m'étais déjà demandé si j'étais habilité à intervenir contre cette procédure et si mon intervention pouvait avoir ne fût-ce qu'une petite chance de succès. Quant à savoir à qui je devais d'abord m'adresser, cela allait de soi pour moi. C'était au commandant, évidemment. Vous m'avez rendu la chose plus évidente encore, sans avoir cependant, dans un premier temps, conforté ma résolution. Au contraire, votre conviction sincère m'émeut profondément, sans pouvoir néanmoins m'induire en erreur.
L'officier ne répondit rien. Il se tourna vers la machine, attrapa l'une des tiges de laiton, puis leva les yeux légèrement penchés en arrière vers le traceur, comme s'il vérifiait que tout était en ordre. Le visiteur suivit l'officier et dit
« Vous ne savez pas encore ce que je vais faire. Certes, je dirai au commandant ce que je pense de la procédure, mais pas au cours d'une réunion. Je le lui dirai en tête à tête. » D'ailleurs, je ne resterai pas assez longtemps ici pour qu'on puisse me faire venir à une réunion. Je partirai, ou tout au moins, j'embarquerai demain, de bonne heure.
Il ne semblait pas que l'officier ait écouté.
La procédure ne vous a donc pas convaincu ?
Dit-il, à part soi, en souriant, comme un vieil homme sourit de la bêtise d'un enfant, tout en gardant pour lui, derrière ce sourire, ses véritables réflexions.
Alors il est temps.
Dit-il enfin en fixant soudain le visiteur d'un regard clair qui contenait comme une invitation, comme un appel à le comprendre.
De quoi est-il temps ?
demanda le visiteur avec inquiétude, sans obtenir toutefois de réponse.
Tu es libre,
dit l'officier au condamné dans sa langue.
Allons, tu es libre.
Pour la première fois, le visage du condamné respira véritablement la vie.
Dégage-le de là,
ordonna l'officier au soldat. Il fallait pour ce faire, à cause de la herse, déployer quelques précautions. Le condamné, dans son impatience, s'était déjà fait quelques petites écorchures sur le dos. Mais à partir de cet instant, l'officier ne se soucia plus de lui. Il alla trouver le visiteur, sortit de nouveau de sa poche le petit portefeuille de cuir, y tourna des pages, trouva finalement la feuille qu'il cherchait et la montra au visiteur.
« Lisez, »
dit-il.
« Je ne peux pas, »
dit le visiteur.
« Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas lire ces feuilles. »
« Mais regardez bien cette feuille. »
dit l'officier en venant se mettre à côté du visiteur pour lire avec lui.
« Sois juste. Voilà ce qui est marqué. Vous pouvez quand même le lire maintenant. »
Le visiteur se pencha tellement sur le papier que l'officier, de crainte qu'il le touche, le retira. Le visiteur ne dit alors plus rien, mais il était évident qu'il n'avait toujours pas pu lire.
« Sois juste. Voilà ce qui est marqué. »
répéta l'officier.
« Ça se peut, »
dit le visiteur.
« Je veux bien le croire que c'est ce qui est marqué. »«
Bon, »
dit l'officier, au moins partiellement satisfait, en montant sur l'échelle avec la feuille. Il la coucha soigneusement dans le traceur et sembla régler de nouveau complètement l'engrenage. C'était un travail très pénible. Il s'agissait d'ailleurs sûrement de tout petits rouages. De temps en temps, la tête de l'officier disparaissait tout à fait dans le traceur, tant l'engrenage exigeait un examen minutieux. Le visiteur suivait d'en bas ce travail sans relâcher son attention, son cou se raidissait et ses yeux lui faisaient mal sous le ciel inondé de soleil. Le soldat et le condamné ne s'occupaient chacun que de l'autre. Lorsque l'officier en eut terminé tout là-haut, il embrassa encore du regard, en souriant, toutes les composantes de la machine, referma cette fois le couvercle du traceur qui était resté ouvert jusqu'à présent, descendit, regarda la fosse, puis le condamné, nota avec satisfaction que ce dernier avait récupéré les vêtements, alla se laver les mains au seau d'eau, se rendit compte trop tard de la saleté repoussante de celle-ci, s'attrista alors de ne pas pouvoir se laver les mains, les plongea finalement, ce substitut ne le satisfaisait pas, mais il fallait s'y faire, dans le sable, puis se releva et commença à déboutonner sa veste d'uniforme. Les deux mouchoirs de dame qu'il avait coincés derrière son col furent la première chose qui lui tomba dans les mains.
« Tiens, voilà tes mouchoirs !»
fit-il au condamné, en les lui lançant. En guise d'explication, il dit au visiteur
« Des cadeaux des dames. »
Malgré la hâte visible avec laquelle il ôta sa veste d'uniforme puis se dévêtit complètement, il traitait chaque vêtement avec beaucoup de soin. Il passa même tout spécialement les doigts sur les aiguillettes d'argent de sa veste d'apparat et arrangea une houppe en la tapotant. Méticulosité qui, à dire vrai, jurait un peu avec la façon dont, en ayant fini avec tel ou tel élément, il le jetait aussitôt dans la fosse avec hargne. La dernière chose qui lui resta était sa courte épée avec sa dragonne. Il tira l'épée du fourreau, la brisa, puis rassembla le tout, le fourreau, la dragonne, et les jeta si violemment que tout brinqueballa bruyamment dans la fosse. Il était nu, maintenant. Le visiteur se mordit les lèvres et ne dit rien. Il savait certes ce qui allait arriver, mais il n'avait aucun droit d'empêcher l'officier de faire quoi que ce soit. Dès lors que la procédure judiciaire à laquelle l'officier était attaché était vraiment si près d'être abolie, peut-être bien à la suite de l'intervention à laquelle le visiteur de son côté se sentait tenu, l'officier agissait de façon parfaitement adéquate. Le visiteur n'aurait pas agi autrement à sa place. Le soldat et le condamné ne comprirent d'abord rien. Au début, ils ne regardèrent même pas. Ils ne se firent attentifs que lorsque l'officier fut entièrement nu. Le condamné, en particulier, semblait touché par le pressentiment d'un grand bouleversement. Ce qui lui était arrivé arrivait maintenant à l'officier. Peut-être en irait-il ainsi jusqu'à la dernière extrémité. Le visiteur étranger en avait sans doute donné l'ordre. C'était donc une vengeance. Sans avoir souffert lui-même jusqu'à la fin, il était quand même vengé jusqu'au bout. Un ample et silencieux sourire éclaira alors son visage et ne le quitta plus. L'officier, quant à lui, s'était tourné vers la machine. S'il avait été clair précédemment qu'il la comprenait bien, la façon dont il la manipulait et dont elle lui obéissait avait maintenant quelque chose de presque stupéfiant. Il avait seulement approché la main de la herse que celle-ci déjà se levait et s'abaissait plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle eût atteint la bonne position pour l'accueillir. Il ne saisit le lit que par le bord et déjà celui-ci se mit à vibrer. Le tampon de feutre vint à la rencontre de sa bouche. On vit bien que l'officier, au fond, n'en voulait pas, mais l'hésitation ne dura qu'un instant. Il se soumit aussitôt et le prit dans sa bouche. Tout était prêt. Seules, les courroies pendaient encore sur les côtés, mais elles étaient manifestement inutiles. Il n'était pas nécessaire d'attacher l'officier. C'est alors que le condamné remarqua les courroies détachées. L'exécution n'était pas parfaite, selon lui, si les courroies n'étaient pas serrées. Il fit un signe insistant aux soldats et ils coururent ligaturer l'officier. Celui-ci avait déjà tendu l'un de ses pieds pour taper d'un coup dans la manivelle qui devait mettre en route le traceur. Il vit alors les deux autres qui s'étaient approchés. Il retira donc le pied et se laissa sangler. Il ne pouvait certes plus atteindre la manivelle maintenant. Ni le soldat, ni le condamné ne la trouveraient, et le visiteur était résolu à ne pas bouger. Ce n'était pas nécessaire. À peine les courroies étaient-elles apposées que la machine se mit à fonctionner. Le lit vibra, les aiguilles dansèrent sur la peau, la herse monta et descendit. Le visiteur avait déjà observé tout cela intensément pendant un moment, quand il se souvint qu'une roue dans le traceur aurait déjà dû gémir. Or, tout était silencieux. On n'entendait pas le moindre ronronnement. Du fait de cette besogne silencieuse, la machine échappa littéralement à l'attention. Le visiteur regardait du côté du soldat et du condamné. Le condamné était le plus animé des trois. Tout l'intéressait sur la machine. Tantôt il se penchait, tantôt il se redressait complètement. Il avait en permanence l'index tendu pour montrer quelque chose au soldat. Le visiteur trouvait cela gênant. Il était résolu à rester là jusqu'à la fin, mais il n'aurait pas supporté longtemps le spectacle des deux hommes.
« Rentrez chez vous !»
dit-il. Le soldat aurait été disposé à obtempérer, mais le condamné perçut presque cet ordre comme une punition. Il supplia, les mains jointes, qu'on lui permette de rester, et comme le visiteur, secouant la tête, refusait de céder, il se mit même à genoux. Le visiteur vit que les ordres ne servaient à rien, en l'occurrence. Il voulut passer de l'autre côté et chasser les deux hommes. C'est alors qu'il entendit un bruit dans le traceur. Il leva les yeux. Y avait-il donc quand même un pignon qui gênait? Mais c'était autre chose. Lentement, le couvercle du traceur se souleva, puis bascula complètement. Les dents d'un pignon apparurent, puis montèrent. Bientôt, toute la roue apparut. On avait l'impression que quelque grande force écrasait le traceur, si bien qu'il ne restait plus de place pour cette roue. Elle tourna jusqu'au bord du traceur, tomba, roula encore un peu sans basculer dans le sable, puis se coucha. Mais déjà, là-haut, un autre rouage était en train de monter, suivi de bien d'autres, grands, petits et presque impossibles à distinguer les uns des autres. À tous, il arriva la même chose. On se disait chaque fois qu'en tout cas le traceur était maintenant déjà vidé, et c'est alors qu'il en surgissait un nouveau groupe, particulièrement abondant, qui dégringolait à son tour, roulait un peu dans le sable et s'immobilisait. Captivé par ce phénomène, le condamné en oublia tout à fait l'ordre du visiteur. Ses roues dentées le ravissaient absolument. Il voulut en attraper une, tout en exhortant le soldat à l'aider, mais retira la main, effrayé, car il en sortit aussitôt une autre qui l'effraya, du moins dès qu'elle se mit à rouler. Le visiteur, en revanche, s'inquiétait beaucoup. La machine était manifestement en train de partir en morceaux. Son tranquille fonctionnement était une illusion. Il eut le sentiment qu'il devait maintenant se préoccuper de l'officier, dès lors que celui-ci ne pouvait plus se prendre en charge lui-même. Mais pendant que la chute des rouages sollicitait toute son attention, il avait omis de surveiller le reste de la machine. Après que le dernier rouage eut quitté le traceur, il se pencha sur la herse et eut alors une nouvelle surprise, pire encore. La herse n'écrivait pas, elle ne faisait qu'enfoncer les pointes, et le lit ne faisait pas rouler le corps, mais le soulevait seulement en vibrant et le poussait dans les aiguilles. Le visiteur voulut intervenir, éventuellement arrêter tout. Ceci, en effet, n'était pas le supplice que l'officier avait voulu s'infliger. C'était ni plus ni moins un meurtre. Il tendit les mains. Mais déjà la herse se relevait avec le corps embroché sur le côté, comme elle ne le faisait normalement qu'au cours de la 12e heure. Le sang coulait en 100 ruisseaux et n'était pas mêlé d'eau. Les petits tuyaux d'eau avaient eux aussi cessé de fonctionner cette fois. Et la dernière fonction était également en panne. Le corps ne se détachait pas des longues aiguilles, perdait son sang à flot, mais restait suspendu au-dessus de la fosse, sans tomber. La herse voulait déjà revenir à son état antérieur, mais comme si elle remarquait elle-même qu'elle n'était pas encore libérée de sa charge, elle restait, malgré tout, au-dessus de la fosse.
« Venez donc m'aider !»
cria le visiteur aux soldats et aux condamnés en attrapant lui-même l'officier par les pieds. Il voulait appuyer sur ses pieds, tandis que de l'autre côté, les deux autres attraperaient la tête de l'officier, en sorte que le corps serait lentement décroché des aiguilles. Ce faisant, il vit presque malgré lui le visage du cadavre. Il était tel qu'il avait été du vivant de l'officier. On n'y discernait aucun signe de la délivrance promise. Ce que tous les autres avaient trouvé dans cette machine, l'officier ne le trouvait pas. Il avait les lèvres fortement serrées l'une contre l'autre. Ses yeux étaient ouverts, avaient gardé l'expression de la vie. Le regard était paisible et convaincu. La pointe du grand aiguillon de fer lui sortait par le front. Quand le visiteur, suivi du soldat et du condamné, parvint aux premières maisons de la colonie, le soldat montra l'une d'entre elles en disant
« Voici la maison de thé. »
Bien que la maison de thé se distinguât peu des autres maisons de la colonie, qui, à l'exception de bâtiments palatins du quartier général, étaient toutes très délabrées, elle fit pourtant sur le visiteur l'impression d'un souvenir historique, et il ressentit toute la puissance des anciens temps. Il s'approcha. Passa, toujours suivi de ses accompagnateurs, entre les tables inoccupées installées dans la rue devant la maison de thé, et respira l'air frais, épais, qui venait de l'intérieur.
« Le vieux est enterré ici, »
dit le soldat.
« Le prêtre lui a refusé une place au cimetière. On s'est demandé un moment, sans trop savoir, où on devait l'enterrer. Et finalement, on l'a enterré ici. L'officier ne vous en a sûrement rien dit, car c'est de cela qu'il a eu naturellement le plus honte. Il a même plusieurs fois tenté la nuit de déterrer le vieux. Mais on l'a toujours mis dehors.
Où est la tombe ?
Demanda le visiteur, qui n'arrivait pas à croire le soldat. Le soldat et le condamné se précipitèrent tous deux, lui passèrent devant et tendirent la main pour montrer l'endroit où la tombe était censée se trouver. Ils menèrent ainsi le visiteur jusqu'au mur du fond contre lequel quelques clients étaient attablés. C'étaient sans doute des ouvriers du port, des hommes solides avec des colliers de barbe noire et luisante coupés courts. Aucun d'eux n'avait de veste. Leurs chemises étaient déchirées, c'était le pauvre peuple humilié. Quand le visiteur s'approcha, certains se levèrent, se pressèrent contre le mur en le regardant. « C'est un étranger, » chuchotait-on autour du visiteur. « Il veut voir la tombe. » Ils poussèrent l'une des tables sur le côté, sous laquelle effectivement se trouvait une pierre tombale. C'était une pierre toute simple, assez basse pour qu'on puisse la cacher sous une table. Elle portait une inscription en tout petit caractère. Le visiteur dut se mettre à genoux pour la lire. Elle disait « Sigi, l'ancien commandant. Ses disciples, aujourd'hui privés du droit de porter un nom, ont creusé pour lui cette tombe et ont posé cette pierre. Il y a une prophétie qui dit qu'après un certain nombre d'années, le commandant ressuscitera et quittera cette maison pour conduire ses disciples à la reconquête de la colonie. Ayez foi et attendez. » Quand le visiteur eut fini de lire et se releva, Il vit tout autour de lui les hommes qui souriaient, comme s'ils avaient lu l'inscription en même temps que lui, l'avaient trouvé ridicule et l'exhortaient à rallier leur opinion. Le visiteur fit comme s'il n'avait rien vu ni entendu, leur distribua quelques pièces, attendit encore que la table soit repoussée au-dessus de la tombe, quitta la maison de thé et se rendit au port. Le soldat et le condamné avaient trouvé à la maison de thé des connaissances qui les retinrent. Mais ils avaient dû s'arracher bientôt à elles, car à peine le visiteur avait-il atteint le milieu du long escalier menant au bateau qu'il lui courait déjà après. Il voulait sans doute, au dernier moment, forcer le visiteur à les emmener avec lui. Tandis que le visiteur négociait en bas avec un marin sa traversée jusqu'aux vapeurs, il dévalait déjà tout de l'escalier sans dire un mot, car il n'osait pas crier. Mais quand ils arrivèrent, le visiteur était déjà dans la barque et le marin était en train de s'éloigner de la rive. Ils auraient encore pu sauter dans la barque, mais le visiteur se saisit alors d'une lourde corde nouée qui traînait sur le plancher, les en menaça et les empêcha ainsi de sauter.
Dans la colonie pénitentiaire de Franz Kafka, avec Pierre-François Garel, Julien Campagny, Grégoire Tachnakian et Xavier Béja. Texte traduit par Jean-Pierre Lefebvre et publié dans La Pléiade. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Bruitage, Elodie Fiat. Création musicale, Manuel Pesquine. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Cédric Ossier.